Le lien entre l'action puis l'engagement, là, je pourrais dire que l'idéal, ce serait d'en arriver, et je m'inspire encore de Marie de l'Incarnation, à ce qu'on pourrait appeler l'état d'oraison apostolique. L'état d'oraison apostolique, c'est celui qui est capable de faire oraison pas seulement quelques heures par jour, mais arrive à un état d'oraison permanent où oraison et action se resserrent de plus en plus et se compénètrent, où en allant aux âmes sans quitter de Dieu, on ne sent pratiquement plus la transition entre contemplation et action. Vous savez, quand on regarde actuellement la situation, c'est là que la plupart d'entre nous, nous risquons de nous faire prendre. J'en connais pas beaucoup qui se sont lancés là dans l'apostolat social chrétien avec des intentions païennes. Non. Prêtres, religieux, religieuses et laïcs se sont lancés dans cet apostolat auprès des pauvres, des démunis, avec les meilleures intentions. Et en tant que chrétiens, ils ont vu là de leurs frères qui étaient sans nourriture, sans logement, sans vêtements, souffrants. Ils se sont dit, c'est un devoir au nom du Seigneur de s'occuper des démunis. Pas de problème. Leurs intentions étaient bonnes, la vocation était claire, ils se sont engagés. Mais à un moment donné, en s'occupant des malades, des prisonniers, des pauvres, des gens qui sont dans l'alcoolisme ou la drogue, puis ça, ils ont été tellement accaparés par leur service à rendre, les réunions que ça suppose, les courses que ça suppose, que tranquillement, ben, ils ont écourté leurs prières. Ils ont écourté leur ressourcement spirituel. Et à un moment donné, ils se sont associés aux gens qu'ils aidaient, mais sont devenus, à toute fin pratique, semblables à eux, parce que ils ont épousé leurs souffrances et leurs malheurs, mais n'ont plus un cœur et une âme qui apportent quelque chose que les autres ont perdu dans la souffrance. Le pauvre et le malade a besoin de quelqu'un qui vient l'assister dans sa pauvreté et sa maladie, mais a besoin de quelqu'un qui, en l'aidant, ne s'appauvrit pas lui-même, parce qu'à ce moment-là, il ne se sent pas supporté par quelqu'un qui lui apporte des valeurs que lui a perdu dans sa maladie, sa pauvreté. Et ça, on se fait prendre au moment où on s'y attend le moins. Et c'est peut-être une des graves lacunes que nous connaissons actuellement. Dans beaucoup de mouvements là, de libération post-conciliaire, de courses et de services aux démunis qui sont bien intentionnés, qui sont nécessaires, qui sont dans le plan de Dieu. Certains s'y désarment sans s'en rendre compte. Et il n'est pas tellement sûr, même si le mouvement s'appelle catholique ou chrétien, que le Seigneur est transmis comme il voudrait l'être à ces milieux-là. Alors, il y a donc une importance de structurer sa vie. Saint Paul insistait beaucoup sur la prière, prier sans cesse, puis le Seigneur l'avait montré à ses apôtres. À tout bout de champ, il s'éloignait pour gagner la montagne, aller dans le désert, aller au large, sur la mer, pour se ressourcer, prier. Et nous devons, si nous voulons lui plaire et répondre à son désir, nous discipliner, nous aussi, d'oser équilibrer notre vie de prière et d'action. Ça suppose qu'on prend les moyens pour combattre le surménage, cette fringale de tout savoir et de tout faire le bien qui se présente. De savoir dire non. De ne pas traverser ce que j'appelle la barrière du don. Il y a la barrière du son, mais traverser la barrière du don, ça fait boum la même chose. Et ça peut détruire une vie. Et comment apprendre à dire non sans culpabilité? Après plusieurs années, moi je n'en suis arrivé qu'à une conclusion pratique. Commencer par dire les oui qu'il faut dire au Seigneur et les rendre intouchables. Et quand je commence une année, j'ouvre un nouvel agenda puis tout ça, je prie l'agenda alors qu'il n'y a rien écrit dedans. Et je demande au Seigneur de discerner le temps raisonnable, équilibré, que je devrais mettre au ressourcement spirituel, à la prière, à la distraction, au repos. Et quand, avec le Seigneur, je sens qu'il y a là un rythme à établir, et ça varie d'un individu à l'autre, d'après les santé, d'après les caractères et tout ça, c'est la première chose qui s'inscrit dans le nouvel agenda. Les semaines où il y aura ressourcement, où il y aura repos, vacances, où il y aura intensification de prière, etc., etc. Et quand ça s'est mis là, pas d'une façon embourgeoisée, mais d'une façon pour que, où on peut dire, Seigneur, tu me demandes d'être ton instrument, tu connais mon état de santé, tu connais mes circonstances de vie, les pressions, tout ça, est-ce que vraiment là, je t'accorde la bonne part? Puis le Seigneur confirme des demandes comme ça. Quand ça c'est fait, après ça, vous prenez la liste de toutes les demandes que vous avez, là, Orléans, week-end de février, Shawinigan, telle affaire, telle affaire, puis vous regardez ça, et vous placez ça. Et là, s'il arrive que des choses tombent aux mêmes dates, vous avez le courage d'aller voir, puis de demander si on ne peut pas faire un changement de date, si on ne peut pas faire les ajustements. Et croyez-moi, ça se fait, ça s'ajuste. Évidemment, il ne faut pas arriver l'avant-veille, mais ça se fait comme ça. Et là, vous avez donc un programme de vie où le Seigneur, et vous le discernez, vous permet de repérer ceux et celles qu'il a décidé de mettre sur votre route ou sur la route de qui il a décidé de vous placer. Après ça, il peut arriver un déluge de demandes, puis les gens vous appellent, puis il faudrait être ici, il faudrait être là, etc., etc. Ben, vous dites non. Ça se peut pas, Seigneur, que tu m'aies demandé, pour être ton bon instrument, d'avoir ce régime de vie et d'accepter ce qui est là, puis que tu t'amuses à venir déranger ça. Ce n'est pas son genre. Parce que souvent, quand on n'a pas établi cette hiérarchie, cet équilibre de vie, quand il nous arrive des gens, on se dit toujours, ben, tout d'un coup, le Seigneur m'envoie cette personne-là. On insiste, on voudrait que j'aille donner deux conférences le même soir, alors qu'il y en avait une. Ça doit être le Seigneur qui m'envoie là, etc. C'est difficile de dire non. On n'a pas de point de référence. On n'a pas de moyen de voir si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Bon, passons à la dernière partie. Où s'engager? Je dirais que la première réflexion, qui est obvie, ne pas se contenter de s'engager uniquement dans des groupes de prière. Si beau et si valable que soient nos ministères et nos services. Même dans les œuvres ou les mouvements spirituels, charismatiques ou autres, il y a un danger pour quelqu'un qui fait de son engagement de chrétien qui le limite uniquement dans un univers d'activité spirituelle, il y a un danger de repliement et de cloisonnement. Et à un moment donné, il peut se trouver dans un épuisement spirituel de quelque manière qui pourrait lui jouer un mauvais tour. Et on a vu à l'expérience de l'Action catholique canadienne des gens qui se sont dévoués pendant des années à l'Action catholique et puis tout à coup, là, en ont eu, pour prendre l'expression populaire, leur voyage. Puis on dit, moi, là, j'ai fait du bien, j'ai fait de l'apostolat, je suis allé à la messe pour le reste de mes jours. Autour des autres, maintenant. Tu sais? Puis là, ils sont tellement vidés, tellement épuisés, qu'ils n'ont plus le goût de s'engager comme chrétiens dans d'autres choses. Deuxièmement, s'engager d'abord dans son propre milieu de vie et de travail. Dans le document conciliaire, là, il y a beaucoup d'insistance sur ça, sur la responsabilité du laïc. Aux laïcs reviennent en propre, quoique non exclusivement, les professions et les activités séculières. Lorsqu'ils agissent soit individuellement, soit collectivement comme citoyens du monde, ils auront donc à cœur non seulement de respecter les lois propres à chaque discipline, mais d'y acquérir une véritable compétence. C'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. On est facilement tenté d'enjamber son propre milieu de travail ou de vie pour aller s'engager ailleurs. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. On rencontre parfois des chrétiens qui sont réputés dans la société comme des militants chrétiens, des gens vraiment engagés comme chrétiens. Et si on va voir dans l'usine où ils travaillent, dans le bureau où ils sont, dans le magasin où ils sont employés, où ils dirigent, dans leur propre foyer, on ne retrouve pas la trace de leur influence chrétienne. Et ça, ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Le Seigneur nous a fait vivre... naître dans un foyer, dans une famille, s'y a permis qu'on gagne sa vie dans un milieu de travail, et c'est là, d'abord, que notre engagement de chrétien doit se manifester. Autrement, on peut tomber dans ce travers que je dénonçais là, à Castlemond au mois de septembre, là, et que j'appelais la voie fugitive. Où on fuit les vrais défis que le Seigneur met sur notre route. Où s'engager également? Bien, vous savez comme moi, j'en ai parlé en septembre à Castlemond, il y a un engagement de grande importance actuellement au plan de notre Église. Notre Église institution a besoin d'un supplément d'âme post-conciliaire. Il y a eu, après Vatican II, un effort très loyal pour faire l'aggiornamento, la rénovation de l'Église-institution. Là, il y a 15 ans que le Concile est terminé, je crois qu'il doit y avoir un souffle nouveau dans l'Église. J'en parlerai demain soir. À Vatican II, l'Église, pour la première fois de son histoire, a reconnu la nécessité d'une perpétuelle réforme. Autrefois, on se disait une Église parfaite, authentique. Les défauts, c'était seulement les membres qui pouvaient avoir des défauts, mais l'Église était, elle, solide. Les protestants, eux autres, qui avaient fait la réforme de l'Église, et qu'on a appelé le mouvement protestant de la réforme, les autres prétendaient que l'Église devait toujours être en réforme. Nous autres, on disait non, l'Église. Et à Vatican II, les catholiques ont admis que l'Église n'est pas toujours identifiée à Jésus, mais comme Église, elle a besoin d'une constante réforme. Mais elle est sûre qu'elle ne tombera pas, mais a besoin d'une constante réforme. Alors là, il y a donc un domaine d'engagement qui s'offre pour tout le monde. Et les chrétiens devraient s'engager davantage, surtout ceux qui sont dans les mouvements de renouveau, qui sont restés un peu à l'extérieur de l'Église-institution, devraient trouver le moyen de s'engager. Et finalement, s'engager partout où se fera l'avenir de notre société, dans les masses médias, dans les associations professionnelles, dans le domaine social, économique et politique. L'action chrétienne devrait pouvoir se réorganiser et être vraiment perceptible. On avait autrefois des mouvements confessionnels. On avait l'Association des cultivateurs catholiques, les infirmières catholiques, les commerçants catholiques. Après ça, on a tout fait, on a appelé ça des mouvements chrétiens. Puis après ça, on les a appelés interconfessionnels. Puis après ça, ils sont devenus non confessionnels. Puis aujourd'hui, n'en parlons plus. Sous prétexte d'admettre une liberté religieuse, puis de mettre tout le monde à l'aise. Le sel s'est affadi, puis aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes dans beaucoup d'associations professionnelles ne s'affichent pas comme tels, sont frustrés, et le leadership de ces associations-là tombe dans les mains de minorités, peut-être moins bien pensantes. Alors, il y a là tout un secteur de confessionnalisation, si je peux inventer le mot, de nos groupements et de nos mouvements professionnels. Alors voilà, mes chers amis, un certain nombre de réflexions sur ce thème. Pourquoi nous engager? C'est pour continuer l'œuvre de Dieu, combattre le péché et ses suites, et passer l'amour du Seigneur à nos frères. C'est pour ça que nous devons, nous qui sommes croyants, nous engager. Comment nous engager? Commencer par une prière qui s'engage, suivie d'un enseignement qui se prie, et d'une prière et d'un engagement qui restent étroitement équilibrés et intégrés. Où s'engager? Sortir d'un risque de s'enfermer dans des mouvements strictement spirituels seulement, aller à l'extérieur, d'abord dans son milieu familial, son milieu de travail, son milieu social, s'engager également dans les mouvements officiels de l'Église pour favoriser sa réforme et sa rénovation, et finalement aller dans tous les secteurs où le sort de la société